un grand du rock qui en a fait chanter plusieurs, qui en a fait danser beaucoup plus encore. Et je pense que c'est un gros morceau qui nous a quittés. Et pour nous en parler, pour parler de Eddie Van Halen, c'est jamais trop tard pour parler un peu de quelqu'un qui nous a marqué au cours de notre vie. Eh bien, j'ai au bout du fil Eric Flynn. Salut Eric.
Hey, salut Raphaël, ça va bien?
Et ça va très bien, toi?
Ouais, cool. Ça
ouais.
Va très bien, merci.
Ben oui, on s'est parlé v'là deux jours parce qu'on voulait justement, on savait à chaque semaine, les jeudis, on te parle dans le retour à la maison. Et ben, c'est important de pouvoir parler de nos artistes favoris qui nous quittent. Et on en a perdu un bon v'là quelques heures à peine, v'là un peu plus que 48 heures. Eddie Van Halen, et justement, tu vas pouvoir nous en parler. Il nous a quittés à l'âge de 65 ans.
Oui, alors j'ai 65 ans. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que c'est le cancer de la gorge qui l'a frappé, qui traînait depuis au moins 10 ans, mais les derniers mois ont été pénibles. David Lee Roth, le chanteur original de Van Halen, avait mentionné au mois de janvier que c'est beau s'il va se rendre à cet été, mais pas plus que ça. Donc, on était un petit peu au courant, tu sais, dans le milieu, comme de quoi que... regarde, Eddie, c'est une question de temps, mais quand ça arrive, ça frappe vraiment, puis ça a frappé des gens, incroyable. Cette semaine, ça a vraiment frappé des gens. Pourquoi? Parce que, pour faire un parallèle, ce qu'on peut faire un petit parallèle pour que les gens comprennent l'impact, l'envergure de Eddie Van Halen, c'est un comparatif avec Patrick Roy au hockey. On sait que Patrick Roy au hockey... Il a inspiré une génération de jeunes à devenir gardien de but et ça a été une éclosion qui a été faite dans les années 90. Ben, c'est la même chose avec Eddie Van Halen. Il a inspiré, il a créé une éclosion de jeunes à travers la planète à vouloir devenir guitariste parce que moi, le premier que j'ai commencé à jouer de la guitare, c'était pareil, je voulais jouer comme Eddie Van Halen. C'était comme lui, je voulais jouer. C'était pas comme Angus Young, ni un autre, là, tu sais.
Ben, eux autres aussi en ont inspiré là. Plusieurs, mais Eddie Van Halen en ont inspiré, en fait, en a inspiré incroyablement beaucoup, là.
Oui, c'est très simple, c'est que il a réinventé la guitare. C'est ça qui arrive, c'est qu'il y a des types de guitares, j'avoue qu'il n'y a pas trop dans le technique là-dessus, mais les types de style de guitare comme pincer des cordes, un peu comme un bassiste, jouer avec la guitare, tu sais, ces genres de choses-là.
Ah, Eric, ben, fais-moi donc ça!
Je vais appeler mon minou, j'appelle mes chats.
Mais bref, continue. Donc, effectivement, il a inventé ou il a inspiré plusieurs riffs de guitare.
C'est ça. Puis même, il a réinventé, là, tu sais, comment faire. Parce qu'avant, on parlait toujours de Jimi Hendrix. Mais lorsque Eddie Van Halen a complètement changé tout ça, un peu comme Patrick Roy au hockey, quand il a changé le métier de gardien de but. Alors, mais ce qui est assez spécial aussi de son côté, c'est que au début de sa carrière, c'est que c'était lui le batteur du groupe pré dans le post-mortem de avant Van Halen.
Oui.
Lui, il était le batteur et son frère Alex, qui est le batteur de Van Halen, était le guitariste. Et à un moment donné, pour une raison qu'on ignore, ils ont décidé d'interchanger leurs instruments. Et lui, c'était vraiment là. Il jouait du piano. Tout ce que vous entendez de clavier de Van Halen,
c'est lui.
Ou bien de piano, c'est Eddie Van Halen. C'est carrément lui.
Mais c'est un artiste, point. C'est un gars qui est multitalentueux.
Oh oui, puis Eddie Van Halen, c'était le genre de gars un peu comme, je le compare un peu à Jimmy Page de Led Zeppelin. C'est que si, par exemple, le groupe avait une petite soirée mondaine à l'œil, puis avec les grands de ce monde, et puis que lui, il y avait un petit riff dans sa tête puis qu'il voulait travailler sur son riff, ben il laissait tomber la soirée mondaine. Il disait, non, moi, gars, je vais être chez nous dans mon salon puis je vais pratiquer ma guitare parce que là, j'ai une toune en tête puis je veux jouer, là. Tu sais, c'était un gars qui travaillait tout le temps sa musique, là. Tu sais, vraiment comme Jimmy Page l'était aussi. Un petit parallèle qu'on peut faire avec AC/DC, c'est que ce qui est un peu amusant, c'est que les frères Van Halen sont deux gars qui viennent des Pays-Bas. Et un petit peu plus tard, plus jeunes, sont allés rester aux États-Unis. C'est là qu'ils ont eu du succès. Et c'est la même chose aussi avec AC/DC. C'est deux gars qui viennent de l'Écosse, les frères Young, Malcolm et Angus. Et eux aussi, ils ont changé de continent. Et c'est là qu'ils ont commencé à jouer de la musique. Le groupe Van Halen a été découvert par Gene Simmons du groupe Kiss. Aussi, ce qu'on peut raconter, petite anecdote sur la pièce Out for the Teacher de l'album 1984. Si, à un moment donné, ce soir, vous avez le temps d'aller faire un petit tour, aller voir le vidéoclip, vous allez voir les membres du groupe. Bon, sont à un moment donné, il y a une scène où ils sont habillés pareil. Et on voit, là, bon, il y a les deux frères Van Halen, Michael et Tony, qui dansent là pareil. Et ça, cette scène-là, il a fallu qu'ils la reprennent au moins 30 fois parce que Eddie Van Halen n'avait jamais dansé de sa vie.
OK.
Donc, c'était la première fois qu'il dansait. Et à un moment donné, il y avait une autre scène à faire, puis ça allait, là, non, mais oublie ça, là, gars. Assis-toi, attends, joue de la guitare, puis nous autres, on va danser.
Mais c'est ça, reste assis, là. Concentre-toi sur le son, ça fonctionne, le reste, ça marche pas.
Yes. Ah, ouais, ouais. Puis, aussi, deux petits points aussi qu'on pourrait rajouter sur Eddie Van Halen. C'est que jusqu'en 1986, alors que le groupe était déjà, les gars étaient déjà multimillionnaires, ben, c'était lui qui fabriquait ses guitares à main.
Hein, tu me niaises, là?
Ouais.
Ok, ça, je savais pas.
Ça a toujours été lui. Tout ce que tu vois de guitare avant 1986, c'est Eddie qui est fabriqué lui-même.
Excuse-moi, mon côté collectionneuse va prendre le dessus, là. Ça doit valoir une fortune, si ça existe encore.
Ah, ben oui, c'est sûr. C'est sûr que ça doit exister.
Et s'il en est des parties de quelques-unes au fil des ans, ou les gardait tous?
Je pense qu'ils gardaient tous. Ça, je pourrais pas te le dire, là, mais ça, c'est sûr que tout ce qui est avant 1986, c'était lui qui fabriquait lui-même sa guitare. Sûrement qu'il était très plus habile que moi, en tout cas.
oui, bien plus habile que moi aussi, là.
C'est ça. Puis aussi, une petite scène aussi de Pancake, la pièce Pancake. Tu sais, qu'on parle qu'il a réinventé puis inspiré des jeunes. Tu sais, ils arrivent sur scène puis ils prennent une perceuse. Puis là, oui. Avec la perceuse, ils jouent avec les cordes puis, tu sais, ils créent une chanson avec ça. Tu sais, il y avait juste Eddie Van Halen qui pouvait faire ça. Là. Puis une petite dernière chose qu'on pourrait ajouter, ça a été le dernier groupe à jouer au Colisée de Québec des Nordiques.
Okay.
Sous l'air des Nordiques, en 1995. Ils étaient à Québec une semaine avant le déménagement à Denver. Et je vais toujours me rappeler au rappel, Sammy Hager, le chanteur, arrive sur scène avec un gilet des Nordiques, puis il disait comme de quoi que, ouais, les Nordiques, bravo les Nordiques, ils avaient gagné le championnat de l'Est, puis il y avait son gilet des Nordiques, là, ils ont parti Panama, la pièce Panama avec un gilet des Nordiques. En tout cas, ça, c'est une petite scène aussi, là, qui était assez intéressante, qui était le fun. Là,
c'est un beau souvenir, ça.
Surtout quand t'es fan des Nordiques.
Ben oui, c'est clair. Mais ça, il va toujours en avoir, il va toujours en rester tant et aussi longtemps qu'ils reviennent pas en vie, ou même s'ils reviennent jamais en vie, il va toujours y avoir des fans des Nordiques au Québec.
Ah ben ça, c'est sûr. Alors, c'était ma petite contribution un petit peu sur l'inoubliable, la légende, vraiment, là, Eddie Van Halen.
Ben, tu nous as rappelé de beaux souvenirs, tu lui as rendu hommage, qu'il repose en paix, puis je pense que tu en as appris à plusieurs personnes qui le connaissent, qui trippent sur lui, mais qui ne savaient pas quelques côtés curieux de sa vie, de sa carrière. Merci pour ça. Et tu avais tu avais une couple d'autres choses que tu voulais nous parler sur nos
ondes. Oui, pour les fans de John Lennon, une autre légende, un autre géant de la musique. Tout simplement, juste pour vous rappeler que demain, John aurait eu 80 ans. Il est mort à l'âge de 40 ans.
John Lennon?
Le 8 décembre, oui. Il est décédé le 8 décembre 1980, mais demain, il aurait 80 ans. Alors, juste mentionner ça. Si vous entendez un petit peu demain du John Lennon un peu partout, là, c'est à cause de ça. C'est sur les 80 ans. Il aurait eu 80 ans. C'est dommage parce que c'est un grand de la musique. Fort probable, dans les années 80, s'il était toujours de ce monde, il aurait sûrement commencé à faire de la politique. On serait dans un monde meilleur si John Lennon était toujours là, ça c'est sûr. Parce que c'est un gars qui était c'est un activiste. C'est un gars qui voulait changer le monde, un gars qui était pour... c'était un vrai peace and love, là, tu sais, paix, amour, tu sais, puis c'est vraiment là, très triste d'avoir perdu cet artiste-là le 8 décembre 1980.
Je suis pour ce qui est, peu importe, vous choisissez d'être en couple avec qui dans la vie, j'ai une très grande ouverture d'esprit. Il y a une chose que je vais toujours refuser jusqu'au restant de mes jours, c'est les fois où John Lennon a amené Yoko Ono à briser une chanson. ça, c'est quelque chose que je comprendrai jamais, malgré que j'en écoute là, de la musique où on retrouve Yoko Ono, j'ai même certains vinyles où qu'on la retrouve, mais à chaque fois, je fais comme, il y a quelque chose que je comprends pas. Mais bon, faut être ouvert d'esprit dans la musique, il y en a pour tous les
goûts. L'amour, ça s'explique pas, hein?
C'est, ça s'explique pas,
c'est
ça s'explique pas. T'avais une...
Elle avait quelque chose que les autres n'avaient pas.
Peut-être, elle avait peut-être bien du talent quelque part secret. Ceci dit, Led Zeppelin, tu voulais nous parler de quelque chose concernant du plagiat?
Oui, effectivement, ben c'est peut-être un des plus grands classiques de l'histoire de la musique, la pièce Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Mm-hmm. Ben aujourd'hui, c'est la fin de la saga judiciaire sur la chanson. Ce qui arrive, c'est que depuis au-dessus de 20 ans, c'est la famille d'un défunt, Randy California, qui poursuivait Led Zeppelin pour plagiat sur la chanson Stairway to Heaven. Ce qui arrive, c'est que lui, Randy California, était le leader du groupe Spirit. Et il y a la pièce Taurus, T-A-U-R-I-S. Et si vous avez la chance là, d'aller taper ça sur YouTube, là, vous allez aller à 45 secondes là, de la chanson, puis écouter, puis vous allez pouvoir juger par vous-même. C'est vrai que ça se ressemble vraiment, là, tu sais. Ça se ressemble là, énormément. Mais en fin de compte, le juge a donné raison à le groupe Led Zeppelin et la famille a voulu aller en Cour suprême américaine, puis ça a été refusé. Alors, c'est la fin, il n'y a plus rien à faire du côté de la famille. Et puis, c'est ça. Ce qui est arrivé, c'est que ce qu'on parle beaucoup, c'est qu'en 1968, Led Zeppelin n'était presque pas connu. Il faisait la première partie de Spirit. Et en étant dans la même salle durant les concerts, on dit que c'est là que Jimmy Page et Robert Plant, ils ont comme pogné le riff, puis ils ont commencé à jouer avec le riff, et tu sais, puis là, ben, ils ont dit, tiens, hein, ça sera pas pire, on pourra faire une petite chanson avec ça, puis on va travailler un petit peu là-dessus éventuellement, pour arriver dans Led Zeppelin 4, la sortie de la pièce Stairway to Heaven. Randy California, à l'époque, il avait dit, écoutez, je trouve que ça ressemble pas mal à ma chanson, vous pouvez mettre mon nom, tu sais, quand même, puis là, le groupe avait comme refusé, parce que c'est comme, si on met ton nom, c'est comme si on va avouer qu'on a plagié.
Ouais, non, je comprends. Donc, eux autres, ils continuaient de dire qu'ils avaient inventé.
On peut pas mettre ton nom, on n'a pas copié. C'est ça. Donc, ça a été refusé par le groupe. Et là, ben, lui, il est décédé en 1987, Randy California. Alors, sa succession a décidé, il y a une vingtaine d'années, poursuivre Led Zeppelin pour avoir une certaine redevance. Ils réclamaient eux autres entre 10 et 15 millions de dollars pour une redevance là, de la chanson Stairway to Heaven. Et en fin de compte, c'est ça, ça a été décidé aujourd'hui. Et puis, c'est une victoire pour Led Zeppelin. Puis, je suis content dans un sens, parce que j'aurais pas aimé d'apprendre que un des top 5 des chansons de aurait été un plagiat, tu sais.
Mais il y a une chose, par contre, puis je prends un autre exemple que les gens connaissent un peu moins, mais qui a été, comment je pourrais dire ça, mis sur les réseaux sociaux puis dans les journaux d'une façon différente, et ça date quand même de quelques instants, un artiste fort connu dans la musique progressive qui est Steven Wilson, qui a déjà été dans un band qui s'appelait Porcupine Tree, un band qui lui appartenait à l'époque, et Porcupine Tree avait quelques chansons où on pouvait reconnaître des riffs de guitare, des partitions de guitare de bon, j'oublie le nom, c'est pas drôle là, je peux pas croire que j'oublie le nom. c'est Perlipopette, un des plus gros noms de la musique, Pink Floyd. Ben, on va, je l'ai.
Okay,
il y avait des riffs de guitare identiques à Pink Floyd, et dans deux de leurs chansons, il y avait justement dans la chanson Dogs de Pink Floyd et Sheep de Pink Floyd, des partitions qui pouvaient être reconnues de Steven Wilson dans son groupe de Porcupine Tree. Et quand les gens qui écoutaient la musique, donc on peut dire les auditeurs, les fans ont écouté cette musique-là et ont reconnu, ont trouvé la ressemblance et ont dit, bon, à part qu'il y en a un qui est un peu plus rapide, l'autre est carrément pareil, c'est juste les paroles qui changent ou bien la vitesse qui change, eh bien, il a tout simplement avoué, effectivement, c'est le même bout de guitare qu'on a dans une de nos chansons de 6 à 7 minutes qu'on a voulu rendre hommage puis justement faire un clin d'œil parce que c'est de la musique qu'on aime beaucoup, qu'on apprécie beaucoup. Et lorsqu'ils ont dit la vérité, et qui ont dit que c'était une sorte d'hommage, puis que justement, c'est une forme aussi d'inspiration, et qui ont tout simplement mis un petit bout de guitare qui était les mêmes partitions que dans Pink Floyd. Les gens l'ont juste bien pris, puis ont dit, effectivement, c'est deux bons bands, c'est deux personnes respectables. À ce moment-là, je peux comprendre qu'on veut rendre hommage à des personnes qui nous ont inspirés au fil, au au fil du temps. Donc, je sais pas pourquoi il y a des gens qui, des fois, qui sont réticents à dire, ben oui, on s'est inspiré ou on a copié, un peu comme Led Zeppelin. C'est comme deux façons de réagir. D'autres qui veulent vraiment garder la possession de leur chanson, puis d'autres qui veulent contre-attaquer, d'autres qui sont très passifs et qui l'avouent. Puis tu vois, il y a jamais eu de problème ou de poursuite entre Pink Floyd puis de Porcupine Tree à l'époque, puis il y a jamais eu de problème non plus.
Ben, c'est ça. Pour moi, il y a eu... au moins, il a assumé ce qu'il a dit, puis il a été honnête, puis ça, c'est tout en sa faveur aussi, tu sais. Puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de chansons, vous ne voulez pas, c'est du son qui se ressemble. Des fois, il peut y avoir de la musique qui peut ressembler à de quoi, mais... Ou des fois, si tu fais un riff, puis ça ressemble... celui qui me vient en tête, c'est lorsque Collective Soul... ils ont pris le début d'une chanson de Metallica, je me souviens plus du nom, mais en tout cas, je pense que c'est King Nothing. Et puis, là, les gars de Collective Soul, ils disent, ouais, c'est vrai que ça ressemble à le début d'une chanson de Metallica, tu sais. Fait que les gars, tu sais, ils ont contacté Metallica, ils ont dit, écoutez, tiens, écoute ça, est-ce que ça vous écœure, oui ou non? Puis les gars de Metallica, ils ont dit, alors, regarde, là, je pense que c'est Kirk Hammett, là. Kirk Hammett qui est arrivé, puis il a dit, ben non, regarde, là, oublie ça, là, tu sais, il n'y a pas de souci là-dessus, puis regarde, on commencera pas à te poursuivre pour ça, là. Souvent, il y a des échanges comme ça. Il y a des groupes, souvent, qui vont faire des petits flashs de 2-3 secondes sur un riff qui est connu.
Ou des fois, des paroles.
Ça, c'est complètement normal.
Ben oui.
C'est complètement normal.
Ben moi, je trouve ça, je suis désolée de peut-être rendre ça un peu cucu, mais je trouve ça mignon, je trouve ça cute, je trouve c'est une belle chose entre artistes. Justement, ils ont été, eux autres aussi, petits culs, tu sais, ils ont été des jeunes ados qui ont trippé sur la musique de... Puis là, après ça, sont rendus aussi grands que c'est... Que... C'est parce qu'il y en a des artistes là qui écoutaient... je prends l'exemple encore de Steven Wilson puis de Pink Floyd. Là. Lui, Steven Wilson, a écouté Pink Floyd en masse, puis rien qu'en masse, puis comme bien d'autres artistes. Mais eux autres, lui, il l'a idolâtré, puis par la suite, il a été capable d'avoir une certaine reconnaissance ou un certain partage qui s'est fait à ce moment-là. Puis lui aussi, il est devenu un grand de ce monde au niveau de la musique. Donc, tu sais, ça reste que je trouve ça cute en artiste qui peut avoir un certain croisement comme ça de succès. Quand tu idolâtres quelqu'un et tu finis par être aussi grand ou presque aussi grand que lui, je trouve ça beau.
C'est ça, les deux pièces, c'est King Nothing de Metallica et Counting the Days avec Collective Soul. Donc, s'il y en a qui veulent écouter, aller voir un petit peu la différence, c'est complètement au début, là, un bon 10 secondes, là.
Puis merci beaucoup, Eric. Juste avant de te quitter, deux nouvelles concernant des albums à venir. Un album live de Maiden et un album de Rob Zombie.
Oui, Iron Maiden, eux autres, de leur côté, ils vont sortir un album. Le titre est vraiment dans ce que je vais vous dire. C'est Live Night of the Dead, Legacy of the Beast, Live in Mexico City. Ça va sortir le 20 novembre prochain. Alors, ça va être un live à Mexico qu'on va pouvoir déguster avec nos oreilles en
c'est
plus.
Clair.
Puis aussi, du côté de Rob Zombie, ben, c'est le guitariste John Five qui a mentionné qu'il y a un nouvel album qui va arriver même très, très, très bientôt, very soon. Et c'est ça, donc, ça va... Parce que ça faisait quand même depuis avril 2016 qu'on n'avait pas eu d'album de Rob Zombie.
Effectivement.
Et là, ben, John Five, le guitariste, nous a confirmé que ça allait arriver. Puis pour terminer, peut-être si vous allez sur le site thetalk.com de Sharon Osbourne, elle nous raconte un petit peu sa vie sexuelle avec Ozzy Osbourne. Ça vous
avec Ozzy! Oh là là, ouais, ça... Mais en fait, il y a beaucoup d'histoires concernant Ozzy et Sharon, hein? Dont certaines histoires qui, je ne sais pas si sont encore à jour, mais lorsque Ozzy faisait les tournées dans les derniers temps, Sharon mettait un cadenas sur sa porte pour pas qu'il se sauve, pour être sûr de pouvoir le retrouver le lendemain. C'était comme puis elle mettait un cadenas, mais c'était consentant, là. C'est parce que Ozzy, dans sa chambre, des fois, ben il se défonçait, il consommait beaucoup, il prenait plusieurs choses, et pour être sûr qu'il se sauve pas ou qu'il aille pas voir une voisine ou quoi que ce soit, il s'est entendu pour que Sharon l'enferme dans sa chambre d'hôtel. Bref, il y en a plusieurs sur Ozzy et Sharon.
Ah, c'est toujours différent. Ozzy, il faudrait faire quasiment une émission juste sur lui, là, bon. On en aurait à raconter.
Mais Ozzy sans Sharon, il manque une espèce de poutre pour tenir sa vie. Elle a été bonne pour lui.
Ah ben oui, c'est elle qui a sauvé sa vie. Là. Dans la pièce Under the Graveyard, dans le dernier album, le vidéoclip, là, on voit vraiment l'histoire de leur rencontre. Là. Et puis lui, il avait passé 6 mois de temps dans une chambre d'hôtel, puis tout ce qu'il faisait, c'était fêter, foirer, sniffer et boire. Ouais. Il était presque cliniquement mort. Et à un moment donné, c'est Sharon, qui est la fille de l'ancien gérant du groupe, est arrivée. Et puis, parce qu'il devait de l'argent à son ancien gérant, et puis c'est elle qui a décidé d'aller le voir pour aller réclamer de l'argent. Puis quand elle est arrivée, elle voit qu'il est à moitié mort. Elle dit, ben voyons donc, est-ce que c'est qui se passe avec ce gars-là?
Ouais.
C'est là qu'elle a pris soin, et puis c'est comme ça a débuté leur histoire d'amour entre Sharon et Ozzy Osbourne.
Eric Flynn, pour les passionnés de musique comme toi qui veulent en avoir plus de toi, ils te rejoignent comment?
À RadioQuébec.biz.
Parfait. Puis à ce moment-là aussi, là-dessus, je pense qu'il y a des nouvelles concernant la musique. Vous êtes capable d'aller voir certains articles, puis certaines chroniques aussi.
Yes, en plein ça.
Bon, ben merci beaucoup, Eric. On se dit à la semaine prochaine, à jeudi prochain. Et merci beaucoup d'avoir fait le tour de l'histoire d'Eddie Van Halen, aussi nous avoir raconté du crunchy. Et aussi concernant les autres artistes qu'on a parlé, John Lennon, Led Zeppelin, Sharon, Maiden, Rob Zombie.